Bon, ce matin, on va continuer un petit peu dans les messages thématiques. On avait commencé la semaine dernière. Il me tarde d'avoir terminé pour passer à quelque chose de plus suivi dans la parole de Dieu. Mais bon, il faut qu'on termine ce qu'on commence, comme on dit. Alors, on va continuer sur le discernement. Bon, on est dans un monde qui est compliqué. On dit, maintenant, c'est l'expression, c'est compliqué. Pour pas dire, c'est la panique. C'est compliqué. Et beaucoup de nos contemporains se demandent où est-ce qu'on va. On est comme l'impression qu'on ferait, le monde ferait un dérapage, mais un dérapage incontrôlé. Hein. Et l'idée, c'est que nous, on dérape pas avec lui de façon incontrôlée. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du Seigneur. Notre royaume n'est pas de ce monde, et notre espérance et notre cité même n'est pas d'ici. On est des pèlerins en voyage vers le Seigneur. Alors, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous dit l'apôtre Jacques. Et on va voir un texte donc ce matin qui nous incite à la prudence par rapport à tout ce qui sort dans le monde, toutes ces nouveautés qui arrivent et qui peuvent être séduisantes pour nous. Et l'apôtre encourage au discernement, discerner les esprits. Alors on va lire pour ça le texte qui va nous appuyer pour cette question de discerner les esprits se trouve dans la première épître de Jean, avant juste tout à la fin de la Bible, avant le livre de l'Apocalypse, la première épître de Jean au chapitre 4, et on va lire donc les versets 1 à 6. Voici ce qui est écrit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais, je lis dans la seconde 21, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, il est là dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà. Alors, quelques remarques avant de relire ensemble le texte. À qui s'adresse ce texte? À qui s'adresse? À qui il écrit Jean? Eh bien, vous le voyez, hein, bien-aimé. Au premier verset, c'est il parle assez bien-aimé. Et bien-aimé, c'est un mot qui est formidable parce que c'est ainsi que Dieu appelait son Fils Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus est décrit comme le bien-aimé de Dieu. Et là, l'apôtre appelle les chrétiens, nous appelle nous, c'est bien-aimé, bien-aimé. Donc il s'adresse vraiment aux chrétiens, il s'adresse à tous les chrétiens, à tous ces bien-aimés. Et on voit un peu plus loin, il va s'adresser aux petits-enfants. Les petits-enfants, si on lit le reste de l'épître, on voit que ben, c'est ceux qui commencent dans la foi. Ceux qui se sont convertis depuis peu de temps, ils sont encore en apprentissage, ils sont fragiles. Mais voilà, il va s'adresser aux petits-enfants, donc des choses qui sont faciles à comprendre, qui ne demandent pas d'avoir des années d'expérience et d'avoir fait des études de théologie. C'est pour ça qu'il faut écarter de notre propos l'exorcisme, s'il ne s'est pas du tout question d'exorcisme ici dans notre texte. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quel était le contexte à l'époque où cette lettre a été rédigée? Alors, vous savez, hein, c'est un monde polythéiste complet que le monde antique, hein, à part les Juifs qui adoraient le seul vrai Dieu, qui était monothéiste, tout le reste, c'était le polythéisme qui régnait en maître. Chaque pays, son Dieu, chaque ville, son Dieu, chaque métier, son Dieu, chaque maison, son Dieu. Il y avait des idoles domestiques, alors ça fait beaucoup de dieux, beaucoup d'idoles. C'était le polythéisme. Et on était dans l'inverse de la laïcité. Les salles des fêtes de l'époque, les salles publiques, aujourd'hui, sont réservées à tout sauf aux manifestations religieuses, mais à l'époque, c'était l'inverse. C'était réservé aux manifestations religieuses. Et quand il y avait quelque chose de public qui se passait, ça se passait toujours dans un temple, au pied de l'autel d'une idole. Et là, on faisait des repas et on pouvait venir manger. Mais c'était toujours dans le contexte de l'idolâtrie, l'inverse de la laïcité. Et le christianisme est donc venu bouleverser complètement tout ça par la proclamation de ce Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ouvrait sa porte aux païens, aux idolâtres, en les invitant à quitter ses idoles et de se tourner vers le Dieu unique, vivant et vrai, le Créateur du ciel et de la terre qui avait envoyé son Fils nous racheter de nos fautes, de nos péchés, nous transporter dans le royaume de son et Dieu nous inviter à être transportés dans le royaume de son Fils. Un Dieu unique pour tous, dont le Fils Jésus est venu dans le monde comme un vrai homme pour offrir, pour payer la rédemption. Et donc on comprend que rapidement, après la naissance du christianisme, est apparu un faux Saint-Esprit venant d'un faux Christ appelé l'Antéchrist, celui qui s'oppose à Christ. Tout n'allait pas marcher comme ça, il allait y avoir des difficultés et donc les chrétiens sont appelés au discernement. Qu'est-ce que les esprits? Alors, l'homme n'est pas que, vous le savez, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un âme, un esprit. Et âme, esprit, c'est pas de cela dont il s'agit dans notre texte. On ne parle pas de ce dans quoi est fait l'être humain. On ne parle pas non plus, vous savez, dans les expressions qu'on retrouve dans la Bible et en français, la Bible parle d'un esprit de timidité, d'un esprit de rivalité, d'un esprit de dispute, d'un esprit de douceur. Et il ne s'agit pas non plus de ce qui peut animer notre ancienne nature ou pas. Ici, on parle de deux esprits. Il y a l'Esprit Saint et il y a l'esprit de l'Antéchrist qui lui est opposé. Et le sujet est donc de discerner l'esprit de l'Antéchrist et les esprits qui s'opposent à Jésus. Qu'est-ce que les esprits? Qu'est-ce qu'un prophète? Bon, on voit que, en parcourant le livre des Actes, il y avait des prophètes aussi dans le paganisme, mais le prophète en Israël, c'était celui qui parlait de la part de Dieu, qui proclamait les oracles de Dieu. Il rappelait particulièrement les miracles du passé, l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple autrefois, tout ce qui s'était passé. Il a annoncé également le futur, quel était l'avenir pour le peuple, et surtout il l'encourageait dans le présent à marcher, à garder la loi, à garder l'alliance, à rester fidèle à Dieu, à ne pas redevenir idolâtre. Pour les chrétiens, bien sûr, Jésus est le prophète par excellence, puisqu'il est lui-même la parole de Dieu, et qu'il est vivant pour toujours. Nous avons, en tant que chrétiens, un prophète qui qui est toujours vivant, contrairement à toutes les autres religions qu'on peut trouver dans le monde. Il y avait néanmoins la Bible parle de prophètes qu'il y avait dans la première église et qui étaient associés aux apôtres et qui ont posé les fondements de la foi sur lesquels allait s'édifier l'église. Et on voit que chez les Corinthiens, il y avait également des prophètes, des prophétesses, et là c'était un rôle d'édification, d'encouragement dans l'église, essentiellement, hein, 1 Corinthiens 14, 3 et 4. Et pour le reste, c'est Éphésiens 2, 20 et 3, 5. Après ce préalable, trois premiers versets, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Plusieurs prétendus prophètes, des pseudo-prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme on dit. Hein? Il faut être prudent, il faut être méfiant par rapport à tout ce qui, a priori, nous semble bon, nous semble correct. L'apôtre Paul donne beaucoup de mise en garde dans ce qu'il appelle les loups cruels, les super-apôtres, les prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, des prédicateurs de mensonges qui enseignent des mauvais enseignements pervertis, des enseignements stupides, flatteurs, trompeurs. Et Paul les combat avec de l'argumentation. Il argumente, il s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est important que de se nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir justement discerner tous ces faux enseignants et ces faux docteurs aujourd'hui. Ici, par contre, il s'agit des faux prophètes. Alors, on peut voir peut-être les choses de deux façons. Soit ce sont des faux prophètes qui sont venus dans l'Église, comme il y avait des faux apôtres, et donc ils sont dans l'Église, ils enseignent dans l'Église. Ou alors, des faux prophètes qui sont dans le monde, et leur message pénètre l'Église, leur message rentre dans l'Église. Et c'est à cet aspect-là que je voudrais développer, que je privilégie par rapport à l'autre avec nous ce matin. Dans tous les cas, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Donc, Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce dont doit confesser, la confession que doit apporter tout prophète. Tous les prophètes qui confessent que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme sont de Dieu. Tous les prophètes qui ne veulent pas affirmer que Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu ne sont pas de Dieu, ce sont même des ennemis. Rien de moins que des ennemis. Des ennemis de Jésus-Christ et donc nos ennemis. Alors c'est assez radical parce que tous les prophètes des religions non chrétiennes sont déclarés ennemis de Christ. Tous les prophètes, je ne parle pas des gens qui pratiquent cette religion, je parle de leurs prophètes, de l'esprit de ces prophètes. Et tous les prophètes de spiritualités diverses et variées sont déclarés des ennemis de Christ. Et là, c'est un discernement qui est radical. Il n'y a pas de demi-mesure hein, dans la bouche de l'apôtre Jean. Cela fait en quelque sorte beaucoup d'ennemis et peu d'amis. Alors, peut-être vous direz-vous, mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de tolérance? Est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir du vivre ensemble avec toutes ces autres opinions qui circulent, toutes ces autres idées, toutes ces autres personnes qui prétendent qu'elles parlent, elles aussi, de la part de Dieu, en quelque sorte. Alors, le vivre ensemble pour les hommes, c'est très très bien. Hein. Soyez en paix avec tous, hein, recommande l'apôtre Paul dans ses épîtres. Et de prier pour que nous soyons en paix. Non seulement de prier, de chercher et de rechercher la paix, d'être des artisans de paix. Non, il s'agit, il y a quelque chose par contre dans lequel on ne peut pas faire de compromis, c'est avec l'esprit de l'antéchrist. Il n'est impossible de cohabiter avec. Pourquoi ? Jésus-Christ est en effet Seigneur et il a pour mission d'établir le règne, le royaume de Dieu sur la terre. Quand on récite le Notre Père, on commence ainsi, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans le monde, comme elle est au ciel. Et Jésus-Christ règne, on le lit dans les Philippiens, chapitre 1, verset 11, il, un jour, toute langue fléchira devant lui, tout genou se prosternera et reconnaîtra qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, et la mort même, un jour, devra capituler devant lui. Jésus-Christ est Seigneur, et il n'y a que un seul Seigneur. Il ne peut pas y en avoir deux, et l'Antéchrist n'est pas Seigneur. C'est l'ennemi du Seigneur, et il est vaincu. D'ailleurs, comme le dit la suite de notre texte, les trois versets qui suivent, et là il s'adresse aux petits-enfants, dont je parlais tout à l'heure. Et vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces prétendus prophètes, ces pseudo-prophètes, ces faux prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, les faux prophètes, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité, Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'Antéchrist. N'ayons pas peur des faux prophètes, donc. N'ayons pas peur de ces pseudo-prophètes, et même si on est un enfant dans la foi, l'apôtre dit, n'ayez pas peur d'eux. Ce sont des menteurs, ce sont des trompeurs, ce sont des personnes qui ne s'appuient pas sur la vérité. Et d'ailleurs, ils sont déjà vaincus. Vous les avez vaincus, et c'est un verbe ici particulier dans le grec, c'est un terme parfait, c'est quelque chose qui est accompli une fois pour toutes. Vous les avez vaincus. C'est pourquoi on les a vaincus, parce que Jésus-Christ les a vaincus à la croix de Golgotha. Il a terrassé le diable, il a terrassé Satan, il a terrassé l'Antéchrist. Et il l'a dépouillé de tous ses pouvoirs à la croix de Golgotha. Et étant en Jésus-Christ, nous avons nous aussi cette victoire avec lui. Ils sont déjà vaincus. L'Esprit Saint est Dieu. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est en vous. Et bien sûr, il n'y a pas de comparaison possible entre l'esprit du Dieu trois fois saint et l'esprit des prophètes du monde. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ces faux prophètes-là. Est-ce que celui qui me parle avec tant d'autorité, tant d'assurance, est soumis à l'enseignement apostolique ? Voilà une question facile. Si les faux prophètes écoutent l'enseignement de la Bible, s'ils sont soumis à ce que les apôtres ont écrit, ça va. Mais s'ils ne sont pas soumis à ce qui est écrit, ceux qui ne sont pas soumis à l'enseignement des apôtres de Jésus, ça va pas. Si ce sont des copains du monde, ça ne va pas. L'autorité des apôtres était déjà contestée de leur vivant, et même l'apôtre Jean, ça semble incroyable, mais on voit dans sa deuxième lettre qu'il y avait un certain Diotrephe qui ne voulait pas que l'apôtre Jean vienne chez lui, vienne dans son église. Ça paraît incroyable. Lui qui avait vu le Seigneur, lui qui l'avait touché quand il était ressuscité, lui qui avait accompli des miracles extraordinaires avec les autres apôtres pour prouver la véracité de leurs paroles et de leur enseignement. Ne soyons pas surpris que l'enseignement de Jésus-Christ soit contesté aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait une dame qui est venue, qui était sur la porte de l'église et elle nous a dit « Mais moi je suis évangélique, moi j'ai été baptisé, mais j'ai été pendant 15 ans, je crois, chez les témoins de Jéhovah. » Et elle voudrait ressortir de là-dedans. Alors on voit qu'elle s'était fait attraper par un esprit qui ne confessait pas Jésus-Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Elle s'était fait attraper. Je ne sais pas exactement pourquoi. Elle nous a dit qu'elle passait par des périodes difficiles de sa vie. Je voudrais qu'on regarde maintenant. Ah oui, pardon. Vous avez remarqué, oui, il y a une distinction radicale. Hein? Tous les prophètes qui croient pleinement dans l'autorité du Nouveau Testament sont des prophètes du monde qui ne croient pas. Ouais, pardon. Tous les prophètes qui ne croient pas pleinement dans l'autorité du Nouveau Testament sont des prophètes du monde et de l'Antéchrist. Soit on a affaire à des prophètes de Jésus, soit on a affaire à des prophètes de l'Antéchrist. Donc. Et comme dans le premier cas, ils peuvent être relativement nombreux à ne pas reconnaître l'autorité seule des Saintes Écritures sur toute autre chose. Alors, je voudrais maintenant que l'on regarde la façon dont aujourd'hui les prophéties du monde, quelques-unes de ces prophéties du monde qui ont rentrent un petit peu parce qu'ils ont des points de contact avec l'Église. Donc j'en ai prévu 6, mais on pourrait en ajouter bien plus. Il y a des points de contact dans lesquels on peut être d'accord effectivement et on peut être tenté de les écouter parce qu'ils semblent défendre quelque chose qui est juste, qui correspond à quelque chose de biblique. Mais il y a un côté toxique derrière et on va balayer cela ensemble. Voyons-moi le premier que j'ai prévu. Le premier, c'est la liberté sexuelle. J'en parle souvent, excusez-moi, parce que ça me semble vraiment le numéro un des numéros un aujourd'hui qui empoisonne non seulement notre pays, mais qui fait la zizanie dans le monde entier. Le droit à l'épanouissement sexuel, le droit de disposer de son corps comme on le veut. Alors bien sûr, la sexualité est bonne, elle a été créée par Dieu, il y a quelque chose de... on peut pas... Voilà, les gens ils sont libres dans le cadre que Dieu a fixé d'avoir des relations, mais il y a un côté toxique hein, qui dit qu'il est impossible de s'épanouir sans relation sexuelle, que la sexualité domine complètement. Nous domine complètement, c'est vraiment la première source de notre satisfaction, c'est la sexualité. Et si on ne peut pas, on est empêché de pratiquer sa sexualité, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être heureux. Alors ça fait un débridage complet de l'appétit sexuel. Hein. Et les enfants, bien sûr, en sont les premières victimes. Les premières victimes, on le sait, sur les enfants à naître, comme les enfants qui peuvent même devenir des proies pour des prédateurs, hein, qui, voilà, je suis libre, j'ai besoin de satisfaire mes besoins sexuels, et c'est plus important que tout, hein, on dit que c'est la, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est Freud qui avait introduit ça dans la conscience collective de son temps, et même si maintenant on reconnaît que il n'était pas juste. Mais bon, en tout cas, ça laisse des traces jusqu'à présent. Je les ai mis par ordre historique. Le complotisme, il y a longtemps que cela existe, hein. Le côté positif, c'est qu'on est conscient qu'il y a en action des forces de mal dans le monde, qu'il y a une puissance occulte, ou il y a quelque chose qui fait que le monde ne fonctionne pas bien. Et donc, en tant que chrétien, on peut facilement rejoindre le complotisme par ce biais-là, par ces pensées-là. Des complots seraient orchestrés par les plus hautes instances pour imposer un mode de vie. J'ai trouvé cette définition sur Wikipédia. Elle n'est pas de moi. Voilà, il y a des complots au niveau des États, au niveau des puissants de ce monde, au niveau des dirigeants. Et le problème, c'est qu'il y a la négation de la souveraineté de Dieu sur le monde. Et un encouragement à l'insoumission aux autorités. Et ces deux choses sont en contradiction avec l'enseignement des apôtres, notamment Dieu est souverain, Jésus-Christ est souverain, le monde appartient à Dieu, il n'appartient pas à l'Antéchrist. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu à qui tout appartient, et il garde le contrôle, et il dirige le monde, même si on le voit pas toujours. Et donc, il y a un côté un petit peu toxique là, avec cette insoumission aux autorités, comme les autorités sont dans les mains du comploteur, eh ben voilà, on va se révolter contre eux. Ensuite, la tolérance. Sans limite, et la vérité subjective qui se sont bien mis en place ces dernières années. Il y a plus, on se bat plus pour défendre ses idées. Voilà, il n'y a pas de vérité en fait. Tout le monde a raison en quelque sorte, ou ça dépend tellement de variables. Toutes les opinions se valent. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. Et si vous prétendez détenir la vérité, ou si vous prétendez défendre la vérité, ou dire simplement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous êtes quelqu'un de dangereux. Vous allez créer de la division. Et le fait qu'il n'y ait pas de vérité subjective non plus, on ne peut rien imposer donc sur la moralité. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas un Dieu qui nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Non, il n'y a pas de vérité, donc chacun finalement a un petit peu raison et peut faire ce qu'il veut. Et c'est quelque chose qui est très toxique. Jésus n'est qu'une vérité parmi tant d'autres. Il ne peut pas être le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il ne peut pas être le seul Seigneur. Mais le point positif là-dedans, c'est quand même, on voit là, il y a quand même la liberté de culte qui est défendue par ce concept-là. Et il y a des petits points qui sont positifs, mais voilà, ça reste toxique et ça ne peut pas être retenu. La vérité subjective est un ennemi de la foi et un ennemi de l'Évangile. Ces dernières années, on a eu le wokisme. Alors, je suis pas un spécialiste, hein, mais le wokisme, c'est la lutte contre être éveillé aux inégalités sociales qu'il y a dans le monde. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont pauvres? Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont riches? Pourquoi les riches sont toujours riches et ils se débrouillent pour tout faire pour garder leur richesse, leur pouvoir? Et les pauvres sont toujours pauvres et les minorités sont toujours opprimées. Et ceux qui sont en majorité, ils ce sont eux qui ont toujours, il y a des expressions qui disent ça. C'est quelque chose de, il y a quelque chose de systémique, c'est-à-dire les sociétés sont organisées pour que les pauvres restent pauvres et pour que les riches restent riches. Et donc, le wokisme se révolte contre cela. Il veut défendre les inégalités, il veut défendre les injustices. Alors, il y en a qui voient ça en rappel aux luttes qu'il y a eu aux États-Unis pour les droits civiques, qui étaient plutôt positifs. D'autres qui voient ça comme un rappel de l'idéologie marxiste. En tout cas, on peut être attentif à eux, parce qu'il y a la défense de ceux qu'on opprime injustement. Mais il y a de graves problèmes avec le wokisme. C'est que dans le wokisme, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon possible. Il y a une fracture qui est définitive entre les oppresseurs et les opprimés, et il n'y a pas de possibilité de réconciliation, il n'y a pas de possibilité de rachat. Il n'y a pas de justice à venir qui sera établie. Il n'y a pas d'autre horizon qu'un horizon de lutte. Et donc, ça fait des fractures sociales qu'il est impossible à combler. Les fautes sont toujours du même côté. Et c'est un drame, hein, la fracture sociale que provoque le wokisme. La cancel culture, qui est récente, celle-là, elle est venue avec les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de dénoncer. Il y a beaucoup de dénonciations qui ont été faites pour dénoncer ton porc, etc. Pour, s'il y a quelqu'un qui s'est mal conduit avec moi, je le publie sur les réseaux sociaux, je le dénonce sur les réseaux sociaux. Voilà la façon dont il m'a abusé, celui-là. Et c'est l'ensemble de la communauté ensuite fait du cancel, c'est-à-dire elle le raye, elle le met à part, elle ne l'écoute plus sur les réseaux sociaux, on le bannit, on le lynche, c'est une sorte de lynchage public. Et c'est tellement dangereux ça que le fait de, dès qu'il y a quelque chose de mal, de pouvoir être porté devant le monde entier, devant être mis exposé comme ça, sans avoir aucun moyen de se défendre, c'est qu'on va avoir tendance à se taire et à pas faire de vagues et pas aller déranger telle ou telle personne de peur qu'il nous tombe dessus, même si c'est avec des mensonges, pour que on soit exclu socialement. Donc, toujours un côté positif, mais il y a des côtés qui sont négatifs, qui sont toxiques là-dedans. Le moi moderne, alors ça c'est le dernier né là, qui émerge de tout ça, qu'on peut le définir comme ça. Chacun a droit à l'épanouissement, chacun a droit de devenir ce qu'il a le sentiment profond d'être, hein. J'ai le sentiment que je suis, et le paroxysme, c'est avec la théorie du genre, j'ai le sentiment profond que je suis une femme, donc je suis une femme, donc j'ai le droit d'être une femme, et je fais, etc. La technologie est là pour me permettre d'être ce que je veux être, et avec la chimie et la technologie, la chirurgie, je vais devenir, j'étais un homme, mais je vais devenir une femme, et voyez-moi comme une femme, j'ai le droit d'être une femme parce que c'est ce que je sens que je suis. Chacun a le droit de devenir ce qu'il a le sentiment profond d'être. Il ne faut pas l'empêcher, et il faut encourager cela. Et alors, on est un petit peu là-dedans. Bon, c'est toxique, hein, c'est la théorie du genre. Ça encourage le changement de sexe, ça encourage l'égoïsme, le être centré sur soi-même, sur son propre nombril, ça crée beaucoup de mal-être. Mais il y a quand même un côté positif, parce que quand on se convertit, quand on est chrétien, il y a un changement radical qu'on fait dans notre vie, et il y a un moment où on dit « Non, maintenant, je n'appartiens plus au monde, j'appartiens à Dieu ». Et c'est, je suis plus je veux plus suivre Satan, je vais plus être du monde, je vais être de Dieu, je vais me conduire comme un enfant de Dieu. Et donc ça a des racines chez nous. La grande différence, bien sûr, c'est que là, pour le chrétien, il veut être comme Dieu le voit, d'abord un pécheur, puis un pécheur gracié et un enfant de Dieu. Mais pour le moi moderne, je veux être comme je me vois moi et pas comme Dieu me voit. Donc c'est la grosse différence. Mais il y a toujours des points où on peut se raccrocher. Écoutez, en gros, c'était écoutez ce que je vous dis et vous aurez du bien-être aujourd'hui. Écoutez ce que je vous dis, disent les prophètes, et vous aurez de l'épanouissement personnel. Écoutez ce que je vous dis et vous aurez le vrai bonheur. Et on a beaucoup de voix pour défendre cela. Et ils sont accompagnés de prenez soin de vous, vous le méritez. C'est à votre portée, c'est votre droit aujourd'hui. Et en ce qui concerne le besoin de consolation dont on a besoin, le besoin d'encouragement, d'être tenté de les rechercher dans le monde moderne, par exemple, ou dans tout autre endroit, pour rechercher ce que Dieu veut nous donner, on le délaisse, on délaisse cela et on se tourne vers le monde. Dieu avait texté son peuple par la bouche du prophète Jérémie, vous savez, mon peuple, il écrit ceci, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et en tant que chrétien, on peut être tenté d'aller creuser des citernes, d'aller chercher de l'eau d'une autre source. Il y a une racine commune à tout cela. Quand on regarde bien, tout est enchevêtré les unes dans les autres. Alors, il y a des correspondances entre le moi moderne et la vérité subjective, hein. Objectivement, un homme est un homme, une femme est une femme, biologiquement, c'est comme ça. Ah ben, vu qu'on tolère tout, ah ben on va tolérer également tout à fait le moi moderne, tout ce qui concerne la théorie du genre ou le désir de certaines personnes de vouloir changer leur identité, changer leur sexe. Et bien sûr, tout ça, c'est connecté avec la liberté sexuelle. S'il n'y avait pas de liberté sexuelle, ce ne serait pas possible. La cancel culture est un des sous-produits de la liberté sexuelle. Pourquoi il y a des gens qui se conduisent comme des porcs envers les femmes ? C'est à cause de leur liberté sexuelle. Et ils ont droit aussi à assouvir leur pulsion. Et ils ont droit à tout ça. Et pourquoi ils ne feraient pas? Et voilà. Et cela crée des drames terribles qui doivent être dénoncés. Donc, il y a des connexions ici. Il y a des connexions également avec le wokisme. Parce que le wokisme, c'est la défense des minorités. Et la défense des minorités, le mouvement LGBT s'est saisi de ça, bien sûr. Nous, on est une minorité, on est une minorité opprimée. Et donc, voilà, la société doit nous faire de la place, et une grande place. Et tout ça, c'est connecté aussi à la liberté sexuelle. Pourquoi ? Parce que si j'ai une tendance homosexuelle et si je peux pas assouvir cela, mais je peux jamais être heureux. Je peux pas. La chasteté, c'est quelque chose qui ne rend pas heureux. C'est quelque chose qui est frustrant, qui est bridant. C'est impossible. Et donc, ça crée beaucoup de désordre, beaucoup de malheur. Hein. Tout est connecté. Les systèmes s'alimentent les uns les autres. Et c'est là qu'on comprend un petit peu cette parole de premier épître de Jean, donc au chapitre 5, verset 19, que je vais vous lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est lui qui tire les ficelles, en quelque sorte, de tout cela. Hein. C'est le fracture, le wokisme entraîne une réaction qui va alimenter le complotisme, qui va alimenter tous les problèmes qu'on a maintenant sont la plus grosse, je crois que c'est la question de la liberté sexuelle qui pourrit le monde actuel. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Si on enlève celui-là, tout le reste est vidé de sa substance. Le monde entier est sous la puissance du malin, donc, et de cet fameux esprit de l'antéchrist, celui qui est ennemi de Christ, celui qui est ennemi de Christ. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ici, pour nous amener, nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Et on peut comprendre la radicalité du message de l'apôtre Jean. On ne peut pas être d'un côté et de l'autre. Il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule façon de s'approcher de Dieu. Et c'est lui qui a été mort pour nos péchés, ressuscité et qui règne dans le ciel. Et il faut vraiment s'accrocher à cela parce que c'est la seule façon de se sortir de ces problèmes ici. Une racine commune avec plusieurs effets, donc. Quelques ressources supplémentaires pour nous aider à y voir clair, c'est les professions de foi de l'Église. Je pense que c'est bien de connaître la profession de foi de l'Église pour nous inviter d'être aspirés par un de ces problèmes-là. Il peut y en avoir d'autres, j'en ai mis 6, mais on peut en voir et on peut en trouver bien d'autres problèmes dans notre monde qui peuvent être des pièges pour nous. La vision du monde également. C'est un moyen puissant de confondre tous les systèmes. Enfin, ça met en évidence que le christianisme est supérieur à toutes les autres façons d'envisager la vie, d'avoir les réponses aux questions métaphysiques. Le christianisme est supérieur à tout le reste. Hein. Et c'est bien d'interroger les visions du monde. Mais comment toi tu vois l'origine, comment tu expliques d'où on vient, et comment tu sais discerner le bien et le mal, comment, quel est l'avenir, quelle sera la fin. Toutes ces questions-là, je mettrai des ressources par rapport à ça. L'apologétique culturelle, on a des frères et sœurs qui travaillent là-dedans, ils font un travail remarquable. Nous, on est dans une société séculière, en fait. Hein. Et mais derrière les apparences du règne de la laïcité, où il n'est pas question de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont, en fait, ont inconsciemment une soif, une recherche spirituelle sincère, et ils sont prisonniers de en fait, ce qui est que des systèmes idolâtres du passé qui sont on refait une couche de vernis par-dessus, on le maquille, mais il y a beaucoup de à travers cette offre qu'on trouve dans le monde au niveau spirituel, en fait, ce sont que des vieilles choses, bien souvent que des choses du passé, qui ont été un petit peu remis à l'ordre du jour, et tout ça, ça se résume souvent à tout simplement de l'idolâtrie. Donc, c'est très, très, si vous avez du temps, vous pourrez regarder cela, je mettrai les liens. Pour conclure, l'apôtre Jean nous laisse avec les certitudes à la fin, une sorte de confession de foi. Verset 18 jusqu'au verset 21, 1 Jean 5, 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles, nous dit l'apôtre Jean. Merci Seigneur pour l'esprit que tu nous as donné et parce que tu nous tiens fermement. Garde-nous de toute l'influence du monde dans ce qui est les idées, de ne pas nous faire aspirer comme nous avons entendu le témoignage de cette sœur tout à l'heure qui s'était fait aspirer par le monde. Garde-nous de toujours être attentif à ta voix, de savoir rester attaché à ta parole, à ce qu'y est écrit dans la Bible, et d'apprendre à démasquer ainsi tout ce qui n'est pas de toi, mais tout ce qui vient du monde. Merci parce que nous pouvons néanmoins aimer les personnes qui sont dans le monde. Et nous avons une mission auprès d'eux, que de les faire connaître Jésus-Christ, celui qui libère des liens de la puissance du malin, et celui seul qui est capable de nous conduire dans toute la vérité, et qui est capable de nous transporter dans le royaume de Jésus. Amen.
Amen.